chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série et le titre d'aujourd'hui sera « Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine ». Chers amis, c'est en octobre 1986, sur l'initiative de Jean-Paul II, que la quasi-totalité des religions a été réunie autour du pape à Assise. L'Église catholique avait voulu montrer au monde que son objectif était à l'opposé de l'intolérance, de la volonté de convertir et de l'intransigeance, etc. Et son premier but était donc forcément la paix. Jean-Paul II a dit, le 12 décembre 1986, en évoquant ce grand rassemblement interreligieux, « Les divergences sont un élément moins important par rapport à l'unité qui, au contraire, est radicale, fondamentale et dominante. Toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. In Tertium Millennium, édition Cité du Vatican, juin-septembre 1996. Or le chrétien né de nouveau, c'est-à-dire racheté par le sang de Christ, il est régénéré dans l'Esprit Saint, et il ne peut pas accepter ces propos audacieux de Jean-Paul II. Il sait en effet, pour l'avoir expérimenté, que Dieu ne donne son Saint-Esprit qu'aux hommes qui ont entendu l'Évangile et qui ont cru en Jésus-Christ et en son œuvre expiatoire. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de tous ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Éphésiens 1, versets 13 et 14. Qu'est-ce donc qui a pu conduire l'Église de Rome à l'Esprit d'Assise et à ces autres rassemblements interreligieux? Par-dessus tout, on trouve chez ses dirigeants un désir profond d'en finir définitivement avec l'image d'une institution interreligieuse héritée du Moyen-Âge. Le Concile Vatican II s'est employé à cela en opérant des réformes qui ont plus touché, d'ailleurs, les formes extérieures de la piété que le fond doctrinal, puisque on n'a pas voulu remettre en question la profession de foi du Concile de Trente. Il est utile de rappeler quelques grandes orientations du Concile Vatican II qui ont accentué la séparation de l'Église catholique de la parole de vérité qui est l'Évangile du salut. La constitution dogmatique catholique sur la révélation Dei Verbum, les pères du Concile rappellent que les écritures de la tradition constituent deux sources de révélation divine d'égale importance pour le croyant. De la sorte, se sont trouvés maintenus les grands dogmes et les pratiques religieuses qui placent les fidèles dans une position de désobéissance à la parole de Dieu. Et pourtant, les docteurs catholiques savent parfaitement que ni le Seigneur Jésus, ni les apôtres n'ont enseigné, par exemple, la présence réelle du Christ dans le pain et le vin, ni la régénération par le baptême et le pouvoir des sacrements qui confèrent la grâce, ni non plus l'intercession de la Vierge et des saints avec ses cultes, ses statues, ses images et ses pratiques superstitieuses, non plus l'infaillibilité papale, et en plus la doctrine du purgatoire. Chers amis, notez s'il vous plaît Saint Marc chapitre 7 versets 5 à 9 où il est dit « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous, oui, vous, abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Saint Marc chapitre 7, versets 5 à 9. Le décret sur l'œcuménisme, Unitas Redintegratio, ce décret rappelle que l'Église catholique se considère comme étant le dépositaire de la plénitude des richesses de la révélation. Selon elle, le véritable œcuménisme se réalisera avec la réintégration, écoutez bien, avec la réintégration des chrétiens séparés au sein de Rome. Il faut donc reconnaître que les grandes manœuvres œcuméniques semblent profiter actuellement à l'Église de Rome. Cependant, il ne faudra pas s'étonner de voir des chrétiens se tenir à l'écart de toutes ces démonstrations médiatiques parce que l'obéissance à la sainte parole de Dieu et la fidélité au Seigneur Jésus conduisent nécessairement à la séparation d'avec le mal et d'avec le mensonge. Selon le 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 6 versets 3 à 5, là il est dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où, en effet, naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement qui sont privés de la vérité et qui croient que la piété est une source de gain. Alors, sépare-toi de ces gens-là. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Constitution pastorale, l'Église dans le monde de ce temps. Et selon ce texte, l'Église doit dialoguer avec le monde d'aujourd'hui sur toutes les grandes questions qui déterminent le sort de l'humanité, telles que la vie personnelle et sociale, telles que la culture, les problèmes économiques et politiques, la sauvegarde de la paix. Sur ce terrain, l'Église catholique s'est engagée très loin et de manière les plus diverses. Prise de position officielle dans le domaine de l'éthique, réalisation d'œuvres à caractère social et humanitaire solidement orchestrées par les médias, révalorisation des arts religieux, action en faveur de la paix et de la justice, etc. Le tout est accompagné d'une lecture de la Bible et éclairé, je dis bien éclairé, par les connaissances scientifiques, philosophiques, sociologiques, psychologiques, est tellement cher à l'homme de notre fin et de notre début du 21e siècle. Voyez-vous? Et là aussi, l'Église catholique s'avance avec le langage de son évangile de la charité, empêchant les hommes de faire une distinction claire entre les principes confus de ce monde, même les mieux intentionnés, et la parole de libération si limpide de l'Évangile. Or, le vrai disciple du Christ se contentera toujours d'appeler les hommes à la repentance et d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'Esprit Saint, faisons le reste. Chers amis, notez s'il vous plaît 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 21. Il est dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folle, de folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants tout simplement par la folie de la prédication. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 à 21. Voilà donc la déclaration sur l'Église et sur les religions non chrétiennes. Nostra aetate. C'est la reconnaissance par l'Église catholique des valeurs constituées par les religions non chrétiennes. Elles ont quelque chose à faire connaître de Dieu, à quoi les chrétiens doivent donc, soi-disant, être très attentifs. La rencontre d'Assise et les rassemblements interreligieux de l'Église de Rome constituent des réalisations concrètes de ces textes. Nous allons montrer que ces beaux principes, plutôt que d'apporter la vérité au monde, contribuent bien au contraire à enfermer les non-chrétiens dans leur religion, tout en baignant dans ce climat de renouveau produit par Vatican II. Le magistère romain restait toutefois fort embarrassé par le lourd passif de tous les comportements biliqueux. Oui, c'était quand même pas drôle. Et toutes les attitudes dominatrices de la papauté à travers les siècles. Une simple lecture objective de l'histoire oblige pourtant à constater que ce qui a conduit les papes à tellement d'excès dans le passé trouve le plus souvent son origine dans ces quelques mots « hors de l'Église de Rome, point de salut, extra Ecclesiam Nulla Salus », bulle qui a été publiée en 1302 par le pape Boniface VIII. C'est bien cette célèbre devise qui a amené l'Église catholique à l'intolérance, à l'intransigeance, à la volonté de convertir par la force, et c'est pour cela que Rome a utilisé ces terribles moyens de pression qui furent l'excommunication, les fameuses croisades, l'inquisition, etc., dans le but d'exercer un terrible pouvoir temporel absolu. Pourtant, en changeant un seul mot à sa devise favorite, l'Église de Rome pouvait montrer, elle pouvait donc montrer devant Dieu et devant les hommes, qu'elle désirait réellement se réformer. Alors il lui suffisait de dire tout simplement « Hors de Jésus-Christ, point de salut ». En s'exprimant ainsi, les évêques et les cardinaux du Concile Vatican II auraient donc rendu ainsi, l'Église catholique a Jésus-Christ. Que c'est beau, trop beau pour être vrai. Le pape n'avait plus lieu d'exercer ses prétendues fonctions de vicaire du Christ, vicaire remplaçant, et on aurait laissé l'Esprit-Saint agir véritablement comme au temps apostolique. Mais, voilà, il y a un mais. Mais il aurait fallu alors abandonner les traditions, les dogmes, l'idolâtrie mariale, etc. Et ce n'était pas ce que désiraient les responsables catholiques. Ce qu'ils voulaient, c'était avant tout maintenir à n'importe quel prix leur position d'église officielle aux yeux du monde. En observant toutes les entreprises politiques et sociales menées dans le but d'installer un esprit de justice, de paix et de fraternité humaine dans le monde, en constatant leurs difficultés et leurs échecs, l'Église catholique aimerait de son côté montrer qu'elle détient la solution spirituelle du problème. Le pape et les dirigeants catholiques se sont donc lancés dans de très grandes manœuvres diplomatiques et médiatiques, cherchant à rassembler autour d'eux tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur croyance. Et c'est ainsi que l'Église de Rome se retrouve à l'extrême opposé de l'attitude qu'elle avait adoptée au Moyen-Âge. Ne voulant plus être accusée d'intolérance ou d'intransigeance, ne cherchant pas à imposer sa vérité, tout en apportant son évangile d'amour, elle voudrait donc se faire l'agent de la paix et de la justice dans le monde sous la bannière de Jésus-Christ. On a reproché à l'Église de Rome son esprit d'intolérance dans le passé. Va-t-on, à présent, l'accuser de tolérance outrancière envers les autres religions? Tolérance ou intolérance? Quelle attitude doit-on adopter pour annoncer l'Évangile? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est, à mon avis, un faux problème. Lorsqu'un chrétien rempli de l'Esprit-Saint affirme devant les hommes que Jésus-Christ est la seule voie pour aller à Dieu, j'ai bien dit la seule voie pour aller à Dieu, il ne fait pas preuve d'intolérance vis-à-vis des autres religions. Non, 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 il indique seulement à celui qui cherche la vérité le passage obligé pour venir à Dieu. Jésus lui dit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Voyez-vous? Donc, libre à chacun de croire ou non, et pareillement, lorsque des chrétiens appellent des hommes à la conversion, s'il vous plaît, doivent-ils se montrer intransigeants ou plutôt conciliants? Quelle attitude doivent-ils adopter? Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est à nouveau un faux problème. Voyez-vous, si un chrétien inspiré par l'Esprit Saint invite avec véhémence à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, le Rédempteur, ce n'est certainement pas pour faire du prosélytisme religieux, pas du tout. Il avertit simplement les hommes, comme l'apôtre Paul l'a fait à Athènes, que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à nous tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31. Donc, libre à chacun de le croire ou non. En somme, le véritable disciple de Jésus n'a qu'une chose à faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu conformément aux Saintes Écritures, tout en se laissant conduire par l'Esprit Saint. Le résultat de son évangélisation appartient à l'homme, qui écoute et à Dieu qui seul peut opérer dans son cœur la régénération. Chers amis, l'esprit d'Assise, nous l'avons montré, n'est donc pas l'Esprit Saint, mais c'est l'esprit du monde. Dans son discours final à Assise, le pape a présenté clairement la finalité du mouvement interreligieux comme étant un voyage fraternel dans lequel nous nous accompagnons les uns les autres vers le but transcendant qu'il, Dieu, établit pour nous. Et il a poursuivi en disant « Ce que nous avons fait aujourd'hui à Assise, en priant et en témoignant en faveur de notre engagement pour la paix, nous devons le continuer à le faire chaque jour de notre vie. In tertium millennium, édition Cité du Vatican, page 84. » 13. La notion de but transcendant et d'engagement pour la paix sont des concepts de philosophie et de sagesse uniquement humaine. Jésus a bien dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Saint Jean chapitre 14, verset 27. La paix que le croyant racheté reçoit de Jésus par son sang précieux. C'est la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Et cette paix n'a rien à voir avec la paix que le monde peut donner. Dieu a voulu par lui, par son Fils bien-aimé, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 1, verset 20. Est-il nécessaire de rappeler que lorsque Jésus a envoyé ses disciples dans le monde, il ne les a pas chargés d'une mission diplomatique envers les autres croyants, pas du tout. Il leur a demandé d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il est dit dans Saint Marc, chapitre 16, verset 15, que Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthéus, chapitre 28, verset 19. Oui, les disciples ont reçu l'ordre de mission d'inviter les hommes à se repentir pour obtenir le pardon des péchés. Et il leur a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Saint Luc chapitre 24, versets 46 et 47. Si ce n'est pas les hommes, les bergers catholiques accepteraient-ils de se laisser reprendre par celui qu'ils appellent leur Seigneur? Notez Saint Luc chapitre 6, verset 46, où il est dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Chers amis, nous avons montré l'étonnant paradoxe d'une Église catholique qui, tout en disant qu'elle annonce le salut en Jésus-Christ, cherche en même temps à devenir l'agent principal de l'unification mondiale des religions. Nous avons pu voir, oui, également, que cette situation résultait d'une tendance grandissante à vouloir réduire l'évangile de la grâce de Dieu à un message d'amour, à une invitation à la fraternité universelle. À présent, nous allons rechercher sur quelle base biblique l'Église catholique est en train d'édifier son évangile de la charité. Parmi les passages des Saintes Écritures qui reviennent le plus souvent, nous en retiendrons deux en raison de leur importance et de l'interprétation bien particulière qui leur est donnée. Premièrement, la parabole du bon samaritain dans l'évangile de saint Luc. Deuxièmement, le texte sur le jugement des nations dans l'évangile de saint Matthieu. Voyons donc tout d'abord la parabole du bon samaritain. Notez s'il vous plaît saint Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Ce texte est devenu l'un des plus grands classiques sur la bonté humaine. Jésus lui-même fut l'homme le meilleur qui ait jamais vécu. Toutes les choses que notre Seigneur a dites et a faites sur la terre reflétaient l'amour parfait du Père. L'apôtre Jean va même jusqu'à dire de ces choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même aurait pu contenir les livres qu'on aurait écrits. Saint Jean, chapitre 21, verset 25. Voyez-vous, Jésus a beaucoup parlé de la bonté dans la vie quotidienne et la parabole du bon samaritain est véritablement un appel exigeant à pratiquer la charité. À travers cette histoire, Jésus veut nous faire comprendre que nous devons voir en tout homme le prochain que Dieu demande d'aimer. Et chacun se souvient qu'à l'exemple de notre Maître, nous sommes appelés à aimer jusqu'à nos ennemis. Il est dit dans saint Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Tout ce que nous venons de rappeler sur l'amour du prochain, eh bien l'Église catholique l'enseigne correctement à ses fidèles. Ce n'est donc pas là que nous allons nous arrêter, mais plus précisément sur les quelques versets introductifs de la parabole du bon samaritain dont l'interprétation peut prêter à confusion. Voici donc ces versets de saint Luc chapitre 10, versets 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi ? Qu'est-ce que tu peux lire dans la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ?» de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais donc cela et tu vivras. Alors, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? En venant voir Jésus, un docteur de la loi lui pose une question directe. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? La réponse apparaît clairement, quelques versets plus loin, dans la bouche même du docteur de la loi. Il faut mettre en pratique la loi d'amour, aimer Dieu et son prochain. Et Jésus conclut ainsi, fais cela et tu vivras. De sorte, évidemment, que si l'on s'en tient uniquement à cette invitation de Jésus, et ici, c'est le maître en amour qui parle, Dieu semble donc accorder la vie éternelle à toute personne, n'importe qui mettrait en pratique les deux grands commandements de la loi de Moïse. Et c'est pour cela qu'à l'instar de sœur Emmanuel, de nombreux catholiques en sont venus à cette conclusion. Tout chrétien, juif, musulman, ou tout homme plus ou moins religieux qui croirait au Dieu unique, au Dieu créateur, et qui pratiquerait la charité envers son prochain, devrait forcément hériter la vie éternelle. C'est magnifique, presque trop beau pour être vrai. Oui, fais cela et tu vivras. Voyez-vous, nous nous retrouvons ainsi au cœur même de l'évangile de la charité. Dieu accorde la vie éternelle à tout homme qui met en pratique consciemment ou non la voie d'amour. Mais une telle interprétation est-elle vraiment correcte? Concorde-t-elle vraiment bien avec tous les autres enseignements de la Sainte Bible qui nous parle du salut gratuit qui est offert par Dieu à l'homme? Qu'est-ce que nous allons à présent rechercher? Revenons tout d'abord à cette recommandation que Jésus a faite au docteur de la loi. Il lui a dit « Fais cela et tu vivras ». Nous savons qu'au moment où Jésus parlait, et là, écoutez bien et dressez les oreilles, il n'était pas encore passé par la mort et par la résurrection, et que son œuvre de rédemption à la croix n'était donc pas encore accomplie. La référence du croyant de l'époque était encore, écoutez bien, et elle était encore la loi de Moïse. En disant « Fais cela et tu vivras », au docteur de la loi, Jésus n'a donc pas fait que rappeler ce que Dieu attendait de tout juif qui désirait devenir juste et de hériter de la vie éternelle selon les commandements de l'ancien alliance. Et c'est ainsi que la Sainte Bible nous parle d'hommes et de femmes qui étaient justes devant Dieu parce qu'ils observaient fidèlement la loi de Moïse. Ils observaient fidèlement la loi de Moïse, telle par exemple le sacrificateur Zacharie et sa femme Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Saint Luc chapitre 1, verset 6. Cependant, c'est par la foi que tous les croyants de l'Ancien Testament étaient trouvés justes devant Dieu et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Galates chapitre 3, verset 11. L'apôtre Paul cite ici le prophète Habakkuk pour montrer que Dieu a toujours justifié les hommes par la foi. Selon la volonté de Dieu, l'homme actuel ne peut trouver justice à ses yeux que s'il place totalement sa confiance, j'ai bien dit, s'il place totalement sa confiance en Jésus-Christ, son rédempteur, et qu'il le professe en disant et en comprenant ce qu'il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a vraiment ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Pour terminer cette étude aujourd'hui, il est donc évident que le croyant qui a trouvé son salut en Jésus-Christ désirera par-dessus tout observer la loi d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, sachant bien que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Saint Matthieu chapitre 5, verset 17. Le croyant qui est né de nouveau a donc compris que ce ne sont pas ses bonnes œuvres uniquement qui le rendent juste devant Dieu. Il croit comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui l'a très bien exprimé, que Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, verset 14. Donc, nous terminons. L'homme régénéré sait bien qu'il n'a rien fait pour mériter son salut. Il nous a sauvés, Jésus-Christ, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, Tite, T-I-T-E, chapitre 3, verset 5. Amen. Demain matin, Dieu voulant, nous continuerons l'étude numéro 10. Ce sera le jugement des nations. Chers amis, nous allons prier ensemble et j'essayerai, si ça fonctionne, de vous mettre quelques chants et musiques, musique chrétienne évidemment, d'un assez lointain passé. Je crois que c'est marqué ici 1961. 1961. Et prions donc maintenant. Père céleste, que notre âme s'attache toujours plus étroitement à toi et que nous puissions te dire en tout temps, l'Éternel est ma portion, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Que craindrons-nous, Seigneur, si nous pouvons nous appliquer cette promesse? Ils seront miens, a dit l'Éternel des armées. Ils seront à moi, lorsque je mettrai à part ce que j'ai de plus précieux, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Oui, ta présence adorable sera pour nous un secours de tous les instants pour nous aider à résister au péché et nous consoler dans l'épreuve. Veuille, Seigneur, nous donner un sentiment vif et continuel de ta présence. Rappelle-nous que nous avons un Sauveur vivant qui après être mort, est ressuscité pour nous et entré dans les cieux comme étant notre précurseur. Oh, que nous poursuivions constamment la course qui nous est proposée en regardant à lui, le chef de et le consommateur de la foi. Ô notre Sauveur bien-aimé, fortifie nos cœurs et nos mains pour ton service, afin que ton nom soit glorifié parmi nous, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, un seul Dieu, béni éternellement, et auquel nous rendons toute notre adoration à jamais. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, essayons de voir. Évidemment, vous comprendrez que, comme il y a tellement longtemps, la qualité n'est pas du tout la même qu'on peut faire aujourd'hui. C'est évident. Mais l'essentiel, que vous recevez quelque chose par l'Esprit Saint qui domine dans ces chants et dans ces cantiques. Merci Seigneur, permet que ça fonctionne.
Jésus-Christ, vécu dans mon cœur que de notre beauté qui efface ma peur et me donne la paix. C'est une joie dans mon cœur que de notre beauté. Cette joie, c'est l'amour de mon Dieu. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour porter mon péché et me donner la vie. Je chante son amour, cet amour, c'est l'amour de mon Dieu. C'est une joie dans mon cœur que d'une notre beauté, qui efface ma peur et me donne la paix. C'est une joie dans mon cœur que d'une notre beauté, cette joie, c'est l'amour de mon Dieu. Si le monde m'abandonne, je sais qu'il m'aime encore et qu'il veille sur moi, même quand je m'endors. Voilà pourquoi je chante mon bonheur, et ce chant, c'est l'amour de mon Dieu. J'ai une joie dans mon cœur que Dieu ne peut monter, qui efface ma peur et me donne la paix.
Jusqu'au pas du